t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujimaï au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être de nôtre. Ce vendredi 3 mai, Le Monde célèbre la journée internationale de la liberté de la presse dont le thème est « Parler sans crainte ». En RDC, l'ONG Journaliste en danger, JED en sigle, fait état de la dégradation du respect des droits des journalistes à travers le pays. JED recense en effet 52 cas d'atteinte à la liberté de la presse en 5 mois. Ce rapport relance donc en marge de cette journée le débat sur la dépénalisation du délit de presse. Comment commentez-vous cette actualité et quelle est la situation de la liberté de la presse chez vous? Composez les 081-890-3315 et les 081-890-4339 pour votre intervention. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à Titi Mputu, merci aussi à Berry Franklin Lutiaka pour la réalisation de cette émission. Merci à Jean-Claude Siala qui assure la mise en onde de ces programmes supervisés par Nicole Ngaka et coordonnés par J.R. Lungembo. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi. La République démocratique du Congo occupe la 142e place sur 179 pays au classement mondial des pays les plus respectueux de la liberté de la presse. Selon un nouveau rapport publié il y a quelques mois par Reporters sans frontières, le responsable du bureau Afrique de cette organisation, Ambroise Pierre, a expliqué que la RDC est mal classée dans les domaines de liberté de la presse parce que les médias ont été pris en étau en 2011 et 2012. Nous avons en ligne le premier auditeur qui, au fait, accepte de réfléchir, d'analyser ce débat avec nous. Maurice, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Voilà, Maurice, vous avez la parole. Je l'ai dit tantôt, c'est vendredi 3 mai. Le Monde célèbre la journée internationale de la liberté de la presse, dont le thème est « Parler sans crainte ». Alors, en RDC, l'ONG Journaliste en danger fait état de la dégradation de la liberté de la presse et recense en effet 52 cas d'atteinte à la liberté de la presse en 5 mois. Alors, quelle est la situation de la liberté de la presse ici à Kinshasa, parce que vous êtes ici, et comment vous commentez cette actualité?
Moi, je pense que le tableau est sombre, comme cette organisation l'a bien publié. Hein? Chez nous, vous savez que la presse fonctionne avec les régimes qui est mis en place, ou bien qui régit le pays. Hein? Nous savons, tout le monde sait comme nous sommes dans quel régime chez nous ici. Quand vous faites plutôt vous êtes devant un régime dictatorial, dites-vous que la presse sera aussi miselée, une presse qui sera vraiment au service de ce régime. Si vous êtes dans un régime où il y a la démocratie, vous verrez que la presse va fonctionner en toute liberté en respectant la déontologie et l'éthique du travail. Donc chez nous, cela ne va pas nous surprendre. Cela ne va pas nous surprendre. Nous savons, tout le monde le sait, nous sommes dans quelle sorte de régime. Et raison pour laquelle, quand on décrit, on brosse un tableau sombre par rapport au délit, tout ce qui menace le bon fonctionnement de la presse. Et vraiment, il n'y a pas à condamner cette organisation. Je pense qu'il est vraiment dans le...
Oui, Maurice, c'est vrai que ces rapports relancent tout de même le débat sur la dépénalisation du délit de presse. Vous savez, les organisations qui défendent les droits de la liberté de la presse en RDC plaident en tout cas toutes pour disons le vote ou l'adoption de cette loi ou sur la dépénalisation du délit de presse. Comment commentez-vous cela?
Moi, je pense que, vous savez, il y a quelques mois, j'ai lu dans la presse écrite il y avait une réunion qui a été convoquée par, je crois, la présidence de la République, où on avait invité les patrons des organes de presse. Et au courant de cette réunion, il y a même la radio Capi qui a été indexée, où même la ligne éditoriale de la radio Capi était comparable à celle de des médias internationaux qui visent à déstabiliser le pays. Vous voyez que à chaque fois quand on se met à faire bien son travail, surtout un travail vraiment de la presse, quand on dénonce les mal, quand on dénonce les antivaleurs qui détruisent ce pays, qui veulent vraiment effacer ce pays dans le concert des nations, alors on fait toujours, donc on s'oppose toujours à cette bonne pratique, et on veut que la presse soit toujours inféodée à la volonté du pouvoir. Vous voyez? Alors, maintenant, la presse, maintenant, des gens qui font de leur maison de presse, maintenant, c'est conforme à cette logique. Au lieu de faire leur travail comme il le fallait, mais ils sont toujours derrière cette presse, derrière plutôt ce régime, comme on a promis dans la même réunion, on avait promis qu'on devrait remettre une enveloppe en termes de subsides pour assister à cette presse. Et maintenant, vous avez vu qu'après cette réunion, plusieurs maisons de presse se sont conformées à la logique du pouvoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Vous allez voir que plus de 80% des organes de presse que le Congo dispose sont derrière le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, juste d'abord, d'autres ont peur que si ils sont ils ne sont pas en conformité avec la logique, bien avec les régimes qui régit la nation, je pense qu'ils se verront comme les autres, leur maison fermée, leur télévision, leur journaux fermés, tout ça suspendu. C'est ça le grand problème. Donc c'est vraiment c'est un problème d'abord qu'on doit revoir au niveau du système de gestion qui régit le pays. Avant qu'on puisse même parler vraiment de la presse, qui doit être libre et responsable, afin que d'aider vraiment la nation à présenter un bon travail à d'autres sujets.
Voilà, merci beaucoup Maurice. Vous avez évoqué là pas mal de contraintes qui caractérisent l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, et vous avez d'ailleurs soutenu le tableau qui a été présenté par GED, hein, le tableau qui est très 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 sombre, avec 50 cas enregistrés en 5 mois. Vous avez évoqué également la question sur cette presse chez nous qui fonctionne avec le régime, une presse, c'est normal que cette presse soit aussi muselée, et cela prouve à suffisance que la démocratie n'est que théorique. Merci beaucoup Maurice. Nous prenons Sylvain qui est à Bounia. Sylvain, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les invités de la radio Capi.
Voilà, Sylvain, vous avez la parole.
Bien, merci. En fait, le journée international de la presse est une bonne chose. Vous savez que dans le RDC, quand vous lisez l'article 24 de la Constitution, toute personne a droit à l'information, la liberté de presse, tout ça, tout consort est garanti. Lorsque vous allez très loin, vous lisez maintenant l'article 124, disons, ça, 12, la Constitution elle-même donne des mécanismes en créant, n'est-ce pas, les CESAC, les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication. Tout ça, c'est pour que la presse ait une liberté, ça veut dire une garantie constitutionnelle, pour opérer sa fonction. Vous savez aussi que aujourd'hui les médias constituent les quatrièmes coupes. Et ça veut dire que les médias, ou soit les secteurs de l'information, devaient être aussi autonomes, indépendants. Mais je voudrais saluer qui est intervenu
avant. Oui, Sylvain, avant que vous poursuivez.
Je voulais féliciter son intelligence.
Oui, Sylvain. Oui, Sylvain, s'il vous plaît, avant que vous poursuivez, qu'entendez-vous par quatrième pouvoir?
Vous savez, nous sommes aujourd'hui à face d'une gouvernance à vision mondiale. Les contraintes de la gouvernance mondiale obligent qu'aujourd'hui, en dehors des trois pouvoirs traditionnels qui restent, les pouvoirs judiciaires, législatifs
et le pouvoir exécutif,
les gouvernements, il y a aussi la liberté d'expression, la liberté de la circulation de l'information en faveur de la régulation de la vie de l'État. Et donc ça suppose que, d'une manière institutionnelle, l'information soit instituée à part entière comme les autres institutions politiques du pays. Et puisque vous le savez, les organisations modernes à l'heure actuelle ne sont menées que sur base des informations. Ça veut dire que les informations constituent maintenant les piliers de la réussite d'une organisation, de la réussite de la vision d'une société. Et dans ce sens-là, c'est beaucoup de pairs avec lesquels moi je partage les mêmes points de vue, reconnaissent aujourd'hui que les médias constituent les quatrièmes pouvoirs.
Oui, mais Sylvain, mais selon certains observateurs, il y a certains journalistes qui en abusent aussi.
Bien sûr, puisque je voudrais analyser, vous savez aussi que mon ami a bien parlé de quelque chose qui est très important. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans les systèmes qui échappent à la démocratie, le plus souvent on veut prendre les médias et on prend en otage les médias. Moi, aujourd'hui, je vous appelle à moi créer l'acteur politique de l'opposition. Je signale d'abord que je suis porte-parole de l'IPC. Et lorsque vous êtes en opposition, disons dans l'opposition, le plus souvent, vous n'avez pas accès à l'équitabilité du traitement des informations. Puisque lorsque vous lisez l'article 24, que j'ai souligné ici après, les médias audiovisuels et écrits d'État sont des services publics dont l'accès est garanti de manière équitable à tous les pouvoirs politiques. Je suis à vous, Yannick. Poser la question de la vie à Bitbounia, comment la RTNC véhicule les informations et comment la société accepte cette information. C'est dangereux. Donc, lorsque le pouvoir attaque l'État, prend en otage les médias, il faut se rendre compte que les médias deviennent aussi un pouvoir à part entière, comme aujourd'hui l'État congolais a pris en otage le pouvoir législatif et le Parlement. Donc, je suis d'abord obligé, avant de pouvoir continuer, de présenter mes sincères félicitations, même à commencer par vous-même, puisque vous faites un travail de grande haleine, un travail de sacrifice, et d'ailleurs, nombreux, j'ai suivi les matins sur la radio Capi, nombreux coupeurs prison de Kinshasa. Que le gouvernement puisse voir ça, que le président de la République puisse songer à traiter ces prisonniers politiques qui, le plus souvent, les accusent faussement d'avoir biaisé, ou soit d'avoir agi en dehors de l'idéologie journalistique. Moi, je ne crois pas que la majorité de ces journalistes, puisqu'en fait, nous avons aussi les lignes éditoriales qui prouvent que réellement un journaliste est allé en précédent de mercredi. Je veux conclure en disant ceci.
Oui, rapidement, Sylvain.
Lorsque vous regardez le monde, regardez les États-Unis, regardez la France, puisque nous nous disons démocratiques. Et d'ailleurs, en RDC, on a institué tout un ministère qui s'échappe de l'information, chapeauté par Lambert Mende. Et je salue. À qui d'ailleurs je demande de faire un état des lieux à ce qui concerne son ministère, puisqu'en fait il cherche un ministère le plus important à ce qui concerne l'information. Les journalistes congolais ont droit à la vie. Ils ont droit à la protection de l'État. Ils ont droit à être traités d'une manière responsable. Ces journalistes sont des personnes en entière et ils jouent un rôle important dans la société congolaise. Donc, comme c'est leur journée, je leur souhaite bonne fête. Mais aussi, je pense qu'ils doivent envoyer certaines choses pour traiter des informations d'une manière équitable. Et sur tout ça, j'adresse cette recommandation aux médias, ou soit aux petites radios locales qui sont par-ci, par-là, parsemées dans la République.
Merci beaucoup, Sylvain. Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
C'est JR qui est à l'antenne. Ernest, vous êtes avec nous. Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, nous célébrons et métier noble qui est la presse, les journalistes accompagnent toute la vie de l'être humain. Tout ce que nous pouvons faire, la presse est présente pour révéler cela à ceux qui ne sont pas, à ceux qui sont loin de l'événement. Mais dans notre situation ici particulière, nous constatons que la presse est muselée, comme on l'a dit, par la ligne éditoriale du pouvoir. Or, si nous tenons compte de la liberté de presse et d'opinion, je crois que le pouvoir, voulant organiser la vie nationale, doit laisser des ouvertures pour que les journalistes, ceux qui ont choisi ce métier, puissent travailler dans toute liberté en tant que quatrième pouvoir. De cette manière, il y aura confrontation d'idées et la société va évoluer. Mais lorsqu'on veut fustiger une seule pensée unique, c'est la dictature qui revient. Sous d'autres cieux, la presse, les journalistes sont même affectés pour faire les reportages des rébellions. On vous donne les informations qui se passent dans ce monde-là, dans ce coin où il y a trouble. Mais ici, moindre erreur, vous êtes sacrifié parce que vous nous parlez avec les opposants. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense il fallait laisser la presse s'organiser dans la pluralité pour ne pas avoir un son de cloche. Vous savez que hier, dans notre pays, nous avons plusieurs zones de presse. Et comme la presse est muselée, suivant la ligne autorisée du gouvernement, on constate que les radios périphériques dans nos provinces ne donnent plus l'information voulue et attendue par la population. On reste à raconter les faits banals de tout le temps, des mamans qui se battent, des enfants qui ne partent pas à l'école, et peut-être qui rentrent, qui n'ont pas nettoyé la maison. Ces faits de tout le temps ne cadrent pas dans la logique des quatrième pouvoir. Donc aujourd'hui, nous pouvons plaider au gouvernement congolais de libérer les médias, de ne pas sanctionner sans trop d'informations sûres et nettes qui prouvent que les journalistes ont trahi la nation. Parce qu'il est d'abord lui-même nationaliste. Dans sa profession, il protège la nation et aide ceux qui sont loin de la situation des faits de comprendre ce qui se passe au pays. De la même manière que la population consommera plus la production de la presse nationale, au lieu de nous laisser parcourir des chaînes périphériques, des chaînes de transit pour savoir ce qui se passe dans notre pays. Donc, pour moi, il faut que le gouvernement cesse de museler, de piéger, d'intimider ceux qui ont choisi cet organe de presse. Et ceux qui sont dans la presse étatique soient payés normalement pour que les privés aussi se retrouvent dans ce sens-là. Sinon, on ne va pas vivre la démocratie que le pouvoir de la presse va cimenter.
Voilà, merci beaucoup Ernest d'avoir appelé 081 890 63 15.
Vous êtes jeune ? Vous êtes curieux ? Nous avons de l'énergie à partager ensemble tous les jours sur Radio Okapi. De 15 à 17 heures, c'est Total Énergie. 2 heures de musique, actu people, emploi, environnement. Nous ouvrons le dictionnaire dans J'aimerais savoir. Nous vous donnons aussi la parole dans Regard d'avenir, point de vue et portrait de jeunes. Chaque jour, jouez avec une question de connaissance générale. Pour mettre le feu de 15h à 17h sur Radio Okapi, Total Énergie, c'est l'énergie totale.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Monsieur Kasonga Tshilunde, vous êtes en ligne et depuis le début de cette émission, vous avez suivi les uns et les autres, les auditeurs qui ont démarré cette émission avec nous. Vous êtes le secrétaire général de l'UNPC, disons cet organe qui défend également le droit de journalistes. Bonjour Monsieur Kasonga.
Bonjour.
Voilà. Est-ce que, au regard de ce que, à quoi le propos de tout à l'heure des auditeurs, comment vous orientez leurs préoccupations?
Ben, je dis que les auditeurs, ce sont les consommateurs de la presse congolaise, et ce sont les observateurs et les critiques de la société congolaise, et je partage entièrement tous les propos qui viennent de tenir tout à l'heure, parce que la presse congolaise se trouve dans une situation difficile, une situation où elle-même ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut écrire, à quel moment on va m'arrêter, à quel moment il faut fuir et à quel moment on pourra m'assassiner. Donc ça pose un problème sérieux et je vous donne un cas très simple d'un confrère du Nord Kivu. Ce jeune homme a une radio communautaire. Les rebelles viennent, ils arrachent sa radio pour faire passer leur message, que vous savez, et il cherche à attenter à sa vie. Le jeune homme fuit, il vient vers le gouvernement, et puis le gouvernement l'arrête sous prétexte que c'est un espion, on le met en prison. Alors que tous ceux qui tuent tous les jours parmi ces rebelles, et lorsqu'ils se rendent au phare d'essai, on trouve que c'est un exploit, il faut applaudir, il faut leur étendre je ne sais pas quoi, et puis pour un journaliste, parce qu'il s'est rendu, ben, on trouve que non, c'est un espion, il faut le mettre en prison. Mais plus que ce petit cas est une démonstration que tous ceux qui détiennent le pouvoir dans ce pays n'ont aucune volonté de voir la presse congolaise aller de l'avant. Donc, je crois que les amis qui ont parlé tout à l'heure ont partagé totalement notre vue et ils ne sont pas à la côté.
Oui, d'année en année, monsieur le secrétaire général, l'indicateur de la liberté de la presse à l'RDC ne change pas du tout. Il est toujours au rouge. Hein. Qu'est-ce qui expliquerait cela?
L'année dans l'année, ça c'est vrai, et nous le déplorons tous les jours ici, mais moi je crois que ce qu'il faut, c'est que les autorités de notre pays puissent comprendre que le journaliste, d'abord, n'est pas un colporteur. Le journaliste est conformément à la loi et aux textes internationaux que le pays a ratifié. C'est quelqu'un qui a pour rôle, pour mission, de chercher l'information, de l'amener pour la traiter et la diffuser au profit du public qui n'a pas été au lieu de l'événement, comme l'a dit l'un de vos invités. Mais je pense qu'à ce niveau-là, le journaliste mérite d'être protégé. Et la protection ne peut venir que de nos autorités. Mais si aujourd'hui, on tourne le journaliste, ils sont en prison, la première réaction, c'est quoi? Pour ceux qui sont dans la profession, c'est de s'auto-censurer. Et la deuxième réaction, c'est quoi? C'est ceux qui font le cours de journalisme, dès qu'ils terminent, ils n'ont pas le coup. Ils ne peuvent pas venir dans la profession parce qu'ils savent que cette profession-là n'a pas d'avenir. Cette profession-là, on tue les gens comme on le veut. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? On va chercher ailleurs. Conséquence, nous déplorons les moutons noirs, nous déplorons les gens qui n'ont rien à voir avec la profession, mais qui s'y retrouvent parce qu'ils ont échoué ailleurs. Et tout ça, ça pose un problème de la gestion. Et quand vous parlez même au niveau du gouvernement, je ne vois pas une politique gouvernementale de la presse, il n'y en a pas. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on tue un journaliste, on trouve que c'est comme si on tuait une mouche, et puis ça passe inaperçu. Vous savez que depuis un temps, nous sommes aujourd'hui à environ 8 ou une dizaine de journalistes qui sont tués. Est-ce que vous savez où se trouve le procès? Et qui était le commanditaire? Non, tout s'arrête là. Maïchi a été tué, Gidas Namujimbo a été tué, Bafoua Mamba a été tué.
Franck Ngikié.
Donc vous comprenez que tous ces gens-là ont été tués dans les risques de leur profession, mais jusqu'à ce jour, personne ne sait qui a commandité ces tueries, pourquoi on les a tués, personne ne le sait.
Merci beaucoup. Restez en ligne, Monsieur Kasonga. Nous recevons dans ce studio également Monsieur Polydore Mouboyaï, le président de l'OMEC. Bonjour, président.
Bonjour.
Voilà. Plusieurs rapports font état de la détérioration de la liberté de la presse. Quelles sont les multiples contraintes qui caractérisent actuellement l'exercice de la liberté en République démocratique du Congo?
Non, la première contrainte qu'il faut relever, c'est celle d'accès aux sources. Vous savez, nous sommes l'un des rares pays où les responsables politiques préfèrent s'adresser à la presse étrangère plutôt qu'à leur propre presse. Nous en plaignons régulièrement. Lorsque les sources ne sont pas ouvertes, il est difficile pour un journaliste de vérifier l'information, de la recouper et de mettre à la disposition de l'opinion, des éléments d'information qui soient parfaitement fiables. C'est un vrai problème, et pourtant, ce journaliste, il a pour devoir d'informer. Lorsqu'on ne lui donne pas la bonne information, il se contente de ce qu'il reçoit. Donc il y a là un véritable effort à faire, et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que l'Observatoire des médias congolais s'est engagé dans un lobbying avec le collectif 24 pour obtenir qu'une loi soit prise, soit adoptée, promulguée, et que cette loi puisse garantir l'accès à l'information. Vous savez, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse. Le thème, il est
parler sans crainte.
Parler sans crainte, diffusé dans tous les médias. Mais comment on peut parler sans crainte lorsque on n'a pas accès à la bonne information? Ou lorsqu'on accède à une information, on a rarement la possibilité de croiser les sources. Parce qu'il est recommandé à tout journaliste digne de ce nom de ne pas se contenter d'un son de cloche. Il doit en avoir plusieurs pour pouvoir par les jeux de recoupement, par des jeux de croisement, obtenir la vraie information et la mettre à la disposition du public. Nous n'avons pas que cela comme contrainte. Nous avons aussi les contraintes de notre propre environnement juridique. Lorsque vous vous donnez la peine de revisiter la loi qui régit la presse congolaise, qui est faussement appelée loi portant exercice de la liberté de la presse, mais en réalité, cette loi-là parle très peu de la liberté de la presse. La plupart des dispositions contenues dans cette loi nous renvoient au code pénal. Donc, à tout moment, on rappelle aux journalistes que lorsque vous allez fauter, c'est pas sur base de la loi qui vous régit, mais c'est sur base du code pénal que vous serez sanctionné. Donc là, il y a un véritable problème. Il y a même pire dans cette loi sur la presse. Il y a même une disposition qui prévoit la peine de mort. C'est-à-dire, lorsque nous nous trouvons dans une situation comme celle que nous vivons depuis de très nombreuses années, c'est-à-dire l'état latent ou effectif de guerre, si un journaliste se permet de signaler des anomalies qui se déroulent par exemple sur le fond, comme on a eu dans le temps à le voir lorsque le premier ministre, l'ancien premier ministre Mouzito est descendu à Goma, constater que l'argent envoyé pour les militaires n'arrivait pas. La ration envoyée pour les militaires n'arrivait pas. Mais si c'est le journaliste qui est sur le terrain, qui dénonce les faits, parce que là, la fois passée, c'était le premier ministre qui allait les dénoncer. Mais si c'était un journaliste qui était sur le terrain, qui dénonçait les faits, tout de suite, on vous dit, vous menez une action de démoralisation des forces armées, peine de mort. Ça, c'est prévu dans notre loi sur l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays. Donc vous voyez que là, nous avons un certain nombre de contraintes qu'il faut absolument révisiter et faire en sorte que on puisse élaguer les textes qui nous régissent et offrir aux journalistes congolais un environnement qui leur permette de contribuer effectivement à une gestion transparente.
Voilà, président, on va revenir à vous. Il est temps de prendre encore deux autres auditeurs pour leur permettre aussi d'échanger avec nous. Mathieu, vous êtes à Kananga. Bonjour, Mathieu.
Oui, bonjour, monsieur.
Vous avez la parole.
On fait, malgré la circonstance, à la presse congolaise qui a eu le courage de travailler. Et puis, je voulais saluer tous les auditeurs de la radio Papi. Ils sont en train de nous écouter à travers votre micro. D'abord, en ce qui me concerne, je crois que la presse dans son ensemble est prise en otage par les pouvoirs. C'est ça même la dégradation de la démocratie dans notre pays. Je veux vous relater un exemple typique. Moi, personnellement, j'ai suivi attentivement ce feuilleton. L'arrestation des journalistes de la presse écrite, il s'agit d'Albert Titin des journaux Le Monde, Norbert Nkonde, Réseau, Pascal Moulunda, Le Moniteur, et Génie Abedila du journal Le Futur. Où, d'après les informations que nous avons recueillies, ces journalistes ont été reçus en audience, qu'ils avaient eux-mêmes sous la demande du président de l'Assemblée nationale, ils ont été reçus le 29 avril, munis de leur journal enchanté comportant des titres sulfureux contre le président de l'Assemblée. C'est là même ce qu'on dit par le cabinet. Ça, c'est après le cabinet du président de l'Assemblée qui avait même confirmé à dire qu'ils avaient exigé de la part de ces derniers une somme colossale d'argent pour taire l'information. D'après le conseil juridique du ministre, c'était une tentative d'escroquerie de leur côté. Les journalistes incriminés disent s'être présentés au cabinet du président de l'Assemblée nationale pour vérifier des informations à leur possession. Alors, c'est à leur sortie au bureau qu'ils ont été arrêtés par les agents du parquet et le procureur général. Et depuis ce jour-là, sans être inculpés, ils ont tombé de la police, on dirait d'être interrogés. Moi, je vois comme le pays s'achemine vers la dépénalisation des délits de la presse. Nous savons que dans ce pays, il y a une structure compétente en matière de presse. la commission de discipline qui juge le père voir la disposition telle que ces journalistes devaient être envoyés pour être entendus avec, avant toutes ces choses. Nous sommes inquiets, messieurs les journalistes.
Voilà, monsieur Mathieu, je crois que nous avons le président de l'OMEC ici, qui est d'ailleurs été reçu hier par le président de l'Assemblée nationale. Je crois que pour ce que vous posez comme question en marge de cette journée de la liberté, je crois que nous aurons un peu plus de précision auprès de lui et également auprès de monsieur Kasonga Chilunde, qui est le secrétaire général de l'UNPC. Merci Mathieu d'avoir appelé. Théodore, vous êtes en Bouchimaï. Bonjour Théodore.
Bonjour et merci pour la parole.
Voilà, les 3 mai, c'est le monde célèbre la journée internationale de la liberté de la presse, dont le thème est parler sans crainte. Alors, quelle est la situation de la liberté de la presse chez vous et comment vous commentez l'actualité?
Oui, avant de commenter, je demanderai hier de remettre mon numéro auprès de Mboya et de l'OMEC. Je voudrais lui poser la question après, si vous pouvez donner mon numéro.
D'accord, ok.
J'enchaîne en disant, la journée de la liberté de presse à la République démocratique du Congo doit nous amener au respect des droits à la liberté d'expression. En force de l'expression, il y a des convictions ou des opinions à respecter à travers la radio, la télévision ou encore par les écrits. Pour cette liberté, quand l'ordre public et les bonnes mœurs ne sont pas respectés, il y a violation du non-respect de cette loi. Un élément que je peux ajouter sur les libertés des droits d'autrui, par exemple, les droits de liberté des pensées, de conscience même. Consciemment, un animateur d'une émission politique dans une chaîne privée qui se permet de violer les droits d'autrui en présentant les images ironiques de quelqu'un et propos injurieux sans que les sanctions au délit ne soient appliquées de la même manière. C'est ainsi que je propose que la CESAC ou le MEC doit faire les efforts pour équilibrer les choses en appliquant la loi des poids des mesures sur les chaînes privées ou les chaînes publiques. Parce qu'aujourd'hui, sur la RTNC, il y a un animateur qui, chaque fois, il est en train de montrer les images de quelqu'un qui n'est pas là ou qui n'est pas concerné dans ce gouvernement. Il montre les images, il commente. À chaque événement, ce sont les images qu'il montre, des choses comme ça. Alors, il faut punir, il faut qu'il soit sanctionné comme les autres. Il faut la politique des deux poids, deux mesures. Voilà ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup, Théodore. Jadot, vous êtes à l'Oubéro. Bonjour.
Bonjour, Gérard Ndempo. Bonjour tous les auditeurs de la radio Capi. Et juste bon moment de réflexion pour les journalistes parce que je ne parlerai pas d'une bonne fête parce que je pense que les journalistes ne vivent pas dans de bonnes conditions pour qu'on parle d'une fête. La description de la situation des journalistes ici à l'Est, c'est une situation très, très inquiétante. Vous avez suivi même qu'il y a un journaliste incarcéré à Goma. L'année passée, à Boutembo, il y a eu des stations de radio, notamment, pour ne pas les citer, la radio Liberté et la radio Soleil FM, qui ont été frappées par le maire de la ville de diffusion, tout simplement parce qu'ils ont fait écho de la problématique de l'Est. Je vous signale que moi-même, si je n'interviens pas beaucoup maintenant à la radio Capi, c'est tout simplement parce que j'avais été interpellé le jour où nous avons réalisé l'émission portant problématique de la marche de l'Église catholique le 6 août de l'année passée. J'avais été mis en prison par l'ANR et tout simplement, pour parler à la radio, nous avons eu comme l'impression que l'Église catholique du Congo, il faut faire les lois du régime en place. Mais aussi tous les journalistes qui donneront la vraie information au public comme garantie dans l'article 24 de notre Constitution qui demande à ce que les journalistes puissent donner une vraie information avec impartialité, vous devenez un média de l'opposition. Et vous verrez que même des journalistes ont été assassinés. Je cite ces images qui ont été assassinés, par exemple, à Bukavu, où jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas quels ont été les mobiles de son assassinat. Didas Namujimba a été assassiné, on ne sait pas. Comment est-ce qu'on peut sortir de cet état de lieu? C'est en permettant à ce qu'on puisse au moins consacrer certaines vertus internationales, par exemple dans la vie pratique de notre République. Parce qu'on dit, pour le pilier de la démocratie, il y a ce qu'on appelle la tolérance de la minorité. Lorsque la minorité
culture et comme l'espace qui permet à ce que les gens puissent donner leur point de vue par rapport à la manière où la République est en train de se gérer. Il n'y a que la presse. Il faudrait peut-être capitaliser les remarques, savoir, comme ils nous ont remarqué ceci, qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer d'améliorer les vêtus du quotidien. Mais lorsqu'on s'illustre dans ce qu'on appelle contrainte, les journalistes de ne dire que l'éloge du pouvoir, on sera en train de nous amener vers un autre fait de choses où la population peut-être un moment pourra s'organiser de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour faire face au régime à plat.
Voilà,
c'est ce qui peut nous conduire à des manifestations comme celle de l'Égypte ou de la Tunisie où nous ne maîtriserons même plus les gens et ça va nous conduire au chaos. Donc pour
merci,
ne pas arriver là, je pense que le pouvoir actuel doit permettre à ce que les... Parce que si Radio Okapi n'existait pas maintenant dans ce pays, on n'aurait pas un espace pour s'exprimer. Ça, c'est dans quel
voilà,
pays
merci
du monde.
Beaucoup.
Même nécessaire que...
Voilà. Voilà, merci beaucoup Jado. On va accorder la parole à nos invités qui sont là également pour orienter vos préoccupations. Kasunga Chilunde, vous êtes le secrétaire général à l'UNPC. Vous avez suivi les uns et les autres. Mais alors, la grande question pour certains observateurs, pour arriver à améliorer l'exercice de la liberté de presse en RDC, tout passera par la dépénalisation du délit des presses. Est-ce que vous êtes de cet avis?
Enfin, je partage l'avis et je me dis que pour arriver à la dépénalisation, il faut que nous soyons capables de prendre en charge les fautes professionnelles de nos membres. Et quand vous prenez la situation qui se trouve au niveau de la presse où n'importe qui s'improvise chaque matin, journaliste et tout ceci, et quand il arrive, parce qu'il est soutenu par un ministre ou par un PDG, donc il estime qu'il n'a de compte à rendre à personne, et entre-temps, il continue à salir les organisations qui sont chargées de l'encadrement de la profession. Donc, ils arment ceux qui devaient normalement accorder cette dépénalisation parce qu'on croirait que la dépénalisation équivaut à une impunité au niveau de la profession. Donc, ce que je pense, c'est que nous luttons pour la dépénalisation, c'est une forme aussi, et puis nous luttons aussi pour que la profession soit solidaire, la profession soit soudée, que tous les journalistes reconnaissent en leur structure d'encadrement la force de prendre des décisions qu'ils doivent respecter. À partir de ce moment-là, le pouvoir public qui doit normalement, adopter cette loi-là sur la dépénalisation, comprendra que le monde de la presse est organisé, ils peuvent se sanctionner comme ils l'entendent, et que chacun va accepter la décision prise contre eux, comme on le fait avec les avocats, les médecins, ainsi de suite. Et à partir de ce moment-là, la dépénalisation va venir. Mais si nous évoluons dans la situation d'aujourd'hui, eh ben, nous en avons moins pour encore 20 ans pour qu'on puisse nous accepter, pour que les délits de presse soient...
Voilà, merci beaucoup Monsieur Kasunga, nous avons tenu à vous associer juste pour que ce quelques temps. Merci d'avoir accepté notre invitation et de contribuer à ce débat. Merci beaucoup et à très bientôt. Hein.
Merci beaucoup.
Voilà, nous revenons à vous Monsieur Polydor, parce que là il y a un auditeur qui parlait tout à l'heure, et c'est vous d'ailleurs qui avez parlé de la source d'information, hein, l'accès à l'information. Il faut qu'on puisse permettre aux journalistes d'accéder à l'information, à la bonne information. Mais aujourd'hui, pour certains observateurs, ce qui constitue d'ailleurs une barrière entre le pouvoir et la presse, c'est le phénomène coupage. Du moins, il faudrait dire des choses clairement, l'autorité a peur de sortir de l'argent à tout moment, à donner, parce qu'ils n'en ont pas, pour donner aux journalistes, et par conséquent, les journalistes n'ont pas accès à l'information.
Vous savez, le phénomène coupage, on en parle beaucoup. Hein. On en parle beaucoup chaque fois qu'il s'agit des hommes et des femmes de médias. Mais je voudrais dire à ce sujet que la profession est l'un des rares corps de métier qui, de façon récurrente, hein, accepte de se flageller. Les journalistes se flagellent régulièrement dans nos ateliers, dans nos congrès, dans nos états généraux. Nous nous flagellons de façon régulière. Nous posons, nous mettons sur la table cette question du coupage. Et je voudrais même vous rappeler que il y a 2 ans, 3 ans, l'Observatoire des médias congolais avait
publié.
Publié, fait une importante étude sur ce phénomène. Nous avons tenu un important atelier sur le même phénomène auquel avaient pris part notamment les hommes politiques, les membres du gouvernement, etc. Mais le coupage, s'il faut dire la vérité, c'est un phénomène de société. Le coupage n'est pas un cas particulier de la presse congolaise. C'est lorsque, vous savez, on parle du coupage s'agissant du journaliste, mais le coupage dont on parle, ça représente quoi? Je ne voudrais pas trouver une excuse à ceux qui s'adonnent à cette vilenie. Non, pas du tout. Mais je voudrais rappeler que c'est un fait de la société congolaise. Parce que lorsqu'on parle du coupage du journaliste, c'est-à-dire, bon, c'est... On donne les petits frais de transport quand on le reçoit, ça sans nécessairement être obligé. Mais il y a à côté des gens qui sont archi-coupés. Ce sont des responsables politiques. Vous savez très bien ce qui se passe dans ce pays pour signer des contrats. Vous savez très bien dans ce pays pour faire ce qui se passe, pour faire passer des textes importants. C'est des millions. Qu'est-ce qui n'a jamais été dit sur les contrats miniers? Qu'est-ce qui n'a jamais été dit sur un certain nombre de faits importants qui marquent la vie politique de ce pays? C'est de l'argent qui circule. Nous avons beaucoup de problèmes. Personne ne comprend ce qui se passe dans le secteur pétrolier. Nous avons énormément de problèmes. Donc le coupage, je disais, il est important de le souligner, est un phénomène de la société congolaise. Mais le journaliste, étant issu de cette société, il a avec lui aussi l'état de la société. Donc, si nous voulons tous combattre ce phénomène, c'est pas seulement au niveau du journaliste. Nous devons mener un combat sur le plan national. C'est l'ensemble de la société qui doit se remettre en question. La question qui a été souvent reposée, celle du changement de mentalité. Changeons les mentalités. Mettons-nous au service de la collectivité. Cessons de voir d'abord ce qui entre dans nos poches. Essayons de voir ce que nous mettons à la disposition de la République pour sa reconstruction. C'est ça le vrai problème qui se pose dans ce pays.
Il y a un auditeur qui vous a posé la question tout à l'heure, qui a parlé de ce dernier cas, des éditeurs de journaux qui sont aux arrêts depuis mardi. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça?
Non, ça, c'est un problème que nous avons abordé avec le président de l'Assemblée nationale, qui nous a reçus hier en délégation. Nous sommes allés pour... d'abord savoir ce qui s'était réellement passé, ensuite signaler que nous trouvions à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, et qu'il était un peu malseillant que nous nous retrouvions dans ces circonstances-là avec de nouveaux journalistes arrêtés.
Est-ce que ce sont des vrais journalistes? Parce que c'est cela la question.
Voilà, justement, vous faites bien de poser la question. Nous avons essayé de vérifier. Il apparaît, selon les registres de l'Union nationale de la presse du Congo, que on ne retrouve qu'un seul nom. Un seul nom, il y a quelque temps, de l'un de quatre, qui a reçu une carte professionnelle dans le temps. Et que les autres sont inconnus de la commission de la carte de la presse. Non seulement ils sont inconnus de la commission de la carte de la presse, mais selon les informations qui émanent du ministère de la communication et des médias, du moins de son secrétariat général, les titres eux-mêmes sont inconnus du secrétariat général de l'information et des médias. Donc là, ça pose un problème. Ce problème-là, encore une fois, comme je parlais tout à l'heure de la question du coupage, c'est encore un phénomène de la société congolaise, où tout se fait, où tout est permis. Comment on peut se retrouver avec, comme on l'affirme maintenant là, comment on peut se retrouver avec des médias qui juridiquement n'existent pas et qui sont sur le terrain mis à la disposition du public?
Là, ça signifie qu'il se pose un véritable problème d'administration du pays. Le pays est-il administré? Mais s'il l'était, ou s'il l'est, comment peut-on se trouver en face de ce genre de situation? Des titres qui n'existent pas, qui sont mis à la disposition du public. Des titres qui n'existent pas, qui sont imprimés. Et pourtant, la loi qui nous régit, elle est très claire. La loi ne poursuit pas que les journalistes. La loi ne poursuit pas que les directeurs de publication. La loi poursuit l'imprimeur. Donc, un imprimeur ne peut pas se permettre d'imprimer un organe de presse qui n'existe pas. Mais comment cela arrive-t-il dans notre pays? Qui favorise cette situation? Nous avons des bourgmestres, des agents de la police qui sont partout. On les retrouve partout. Chaque fois qu'il y a une petite manifestation, ils sont là, très nombreux. Mais comment ces bourgmestres-là ne peuvent-ils pas savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur commune? Comment ne peuvent-ils pas savoir qu'il y a des organes pirates qui sont en circulation? Ils le voient. Qu'est-ce qui est fait pour mettre fin à cette situation? Donc, quelque part, lorsque nous nous posons le problème de l'existence de moutons noirs, de l'entrée, de l'intrusion dans la corporation des gens qui n'y ont pas droit, donc, quelque part, il y a des gens qui favorisent cela. Et parmi les gens qui favorisent cela, il y a les hommes politiques. Parce que ce sont les hommes politiques qui utilisent ce genre de canaux. Parce que, vous savez, il est difficile d'aller vers un organe qui est juridiquement établi, de faire passer des imputations dommageables, parce qu'il y aura des conséquences. Et comme on veut éviter ces conséquences, on s'adresse à des organes qui ne sont pas juridiquement établis. Puisqu'en ce moment-là, on ne sait pas comment les atteindre, hein, à moins d'user de moyens peut-être propres aux services de sécurité. Donc c'est ça le vrai problème. Ce sont ces gens-là qui règlent leurs comptes politiques, qui se servent de ce type d'organes pour régler ces comptes. Ce sont ces gens-là qui contribuent à la dégradation de la situation de la presse.
On va prendre encore une série des auditeurs. Il y a Arsène qui a quitté, Junior Abeni et Aloïs Kananga. Arsène, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez la parole, Arsène.
Merci beaucoup. Je crois que mes prédécesseurs et les invités ont en quelque sorte vraiment déblayé le terrain. Le problème est très sérieux, vraiment très sérieux. Dans cette nation qui est la République démocratique du Congo, il faut une révolution. Et cette révolution doit avoir un point de départ. Sans la presse, il n'y aura pas de révolution correcte et honnête. Ce pays doit changer. Ce pays doit s'est modifié dans sa mentalité. Aujourd'hui, si nous parlons de la liberté de la presse, au même moment on parle de la liberté de la presse, c'est au même moment qu'on est en train de regretter nos amis, nos frères et nos concitoyens de la presse qui ont été massacrés, qui ont été assassinés, qui ont été emprisonnés pour des faits banals. Juste parce qu'il y a un monsieur dans un coin qui est mal à l'aise parce qu'il avait menti, parce qu'il avait volé, et on les dénonce, et le résultat c'est l'assassinat, le résultat c'est l'emprisonnement inutile. Ça n'avance à rien. Comment nous pouvons avancer dans ces pays tant que nous ne savons pas être honnêtes envers nous-mêmes? Moi, Arsène,
oui,
je m'adresse...
Oui, Arsène, rapidement, parce qu'on n'a plus assez de temps.
Ok, je m'adresse particulièrement au président de l'Assemblée nationale qui représente la population congolaise. Je lui dis ceci: monsieur, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Au lieu d'être populaire, vous devenez impopulaire, parce que nous ici à Kikwit, nous sommes en train de pleurer pendant plusieurs années Franck, qui est natif d'ici, qui est mort à cause de la liberté, à cause de la vérité. Arrêtez, nous devons changer ce pays, arrêtez s'il vous plaît. J'ai beaucoup de mots à dire, j'ai beaucoup à dire, mais le temps ne me permet pas, mais je ne peux que dire que M. Obey Minaku, arrêtez cette connerie, arrêtez s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Arsène. Voilà, Junior, vous êtes à Béni. Bonjour, Junior.
Bonjour, cher.
Oui, rapidement, parce qu'on n'a plus assez de temps, on va conclure avec notre invité.
Oui, rapidement, qu'il faut ajouter, j'ai rejoint le point de vue d'Axel, et qu'il faut encore ajouter, par rapport au thème d'aujourd'hui, la liberté de la presse, et parler de sa crainte. Comment pouvez-vous parler librement alors que celui qui est censé vous protéger, c'est celui-là-même qui vous attaque à justice avec notre justice qui est en double vitesse. Quand on exemple un éditeur du journal Inquis, qui est le bâti pour citer son nom. Il dénonce les faits, il prouve, mais le ministère public a requis une année de prison et 5 000 $ de dommages et intérêts. Voyez-vous, celui qui dénonce, il prouve, mais celui qui est dénoncé, on le laisse tranquille et celui qui dénonce, il est poursuivi. Voilà. Et je vais poser la question à l'invité, comment il peut définir les délits de presse.
Merci beaucoup, Junior. Aloïs, on va terminer avec vous. Vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, JR, et bonjour à tous les invités de la radio.
Vous avez la parole.
Merci de la parole, monsieur JR. Je profite vraiment de toute occasion pour un peu élargir les tableaux d'analyse. Parce que vous constaterez ensemble avec moi que dans ce pays, la culture du respect des droits de l'opposition, de la liberté de presse et toute autre valeur conseillère pour toute société qui veut se développer est violentée par les grands poissons de ce pays. Il s'agit là de ceux qui ont le pouvoir. Car ils se croient qu'ils sont, ils ont, donc ils sont au-dessus de la loi. Il y a quelques jours, on a débattu sur un sujet concernant le contenu ou la qualité des informations émises par nos chaînes. Eh bien, j'avais attribué une torpeur à nos journalistes, mais en réalité, avec ce qui se passe aujourd'hui, je me rends compte que les journalistes ont totalement raison de dire les mensonges sur la radio, craignant les arrestations, la torture, autre pratique personnelle ou infla humaine de la part des pouvoirs en place. Or, en réalité, c'est le pouvoir qui pouvait réellement aider à des sortes que ces journalistes puissent contribuer réellement afin que ce pays puisse trouver le développement. Bon, par rapport à ces 4 journalistes qui sont arrêtés pour cause de chantage, le chantage, je voulais poser là une petite question. Était au contre-cul et en faveur de lui, parce que moi je pense que la bonne procédure serait de suivre les délais de diffamation plutôt que mettre ces journalistes expressément aux arrêts. Vraiment, cette pratique-là n'est pas bonne. Nous condamnons justement cette pratique-là.
Merci beaucoup, Aloïs. Polydor Mouboyaï, vous êtes président de l'OMEC. D'abord, comment vous réagissez avant que je vous pose une dernière question?
Bon, là, il y a d'abord une question qui m'a été directement posée, c'est celui relatif au délit de presse. C'est tout ça, le délit de presse, comme son nom l'indique, c'est tout simplement un délit qui est commis par voie de presse, c'est-à-dire par voie de
des informations diffusées,
à la radio, à la télévision ou dans un journal. C'est tout simplement cela. Donc, lorsque vous portez atteinte à l'honneur, vous faites des imputations dommageables, vous dites des choses qui sont considérées c'est tout cela qui est considéré comme délit de presse, généralement.
Et le chantage, il y a un autre qui a posé la question du chantage.
Bon, le chantage. C'est un délit, de toute façon, le chantage. C'est un délit. Mais ici, la question qui est soulevée par l'intervenant, c'est que pour lui, on aurait dû laisser les journaux sortir, hein, si j'ai bien compris. Hein, son intention, c'est laisser les journaux sortir, donc que la faute soit consommée, hein, et à partir de là, conduire les intéressés devant les cours des tribunaux. Bon. C'est une façon. Les choses ne sont pas passées.
Voilà. Alors une dernière question.
Mais c'est ce qu'il faut, regretter dans le fait. C'est le fait de constater que des gens se sont retrouvés avec leurs calques dans le bureau de la personne concernée. Mais comment ils se sont retrouvés avec leurs calques là-bas? Ça, ça pose un problème.
Alors, parmi des cas avérés des violations de la liberté de la presse, au fait, des organisations de défense des droits des journalistes parlent de l'emprisonnement à des journalistes, de l'interpellation des journalistes par divers services de sécurité, agression des journalistes pendant leur travail, des coupures du signal, des radios et de télévisions. Comment arriver maintenant à améliorer cet exercice de la liberté de la presse en RDC? Comment on peut arriver à améliorer, à changer quand même cette image?
Oui, mais
quelles sont les pistes et les solutions?
La première piste, c'est d'inviter tout le monde à lire la Constitution congolaise. Parce que j'ai l'impression que l'on a, c'est que les gens ne lisent pas assez ce texte fondamental. L'article 24, il est clair. L'article 24 fait obligation au gouvernement de veiller à ce que le peuple soit pleinement informé sur la marche de la République. C'est l'article 24. Et à partir de là, il y a le mécanisme pour le processus qui doit permettre cette information-là du peuple. C'est à travers les médias qu'on permette donc, d'abord, qu'on intériorise l'article 24 de la Constitution, et à partir de là, qu'on permette aux hommes et aux femmes de médias de faire leur travail. Parce que ce que nous constatons généralement, c'est quoi? C'est un peu la peur. Mais pourquoi a-t-on peur? On a peur parce qu'on n'est pas transparent. On a peur parce que on n'est pas certain de bien mener les affaires de la cité. Mais lorsqu'on gère correctement, lorsqu'on est transparent dans sa gestion, pourquoi devrait-on avoir peur de la question d'un journaliste, de recevoir un journaliste, de fournir l'information? Vous fournissez l'information. Si le journaliste va dire le contraire en ce moment-là, conformément à la loi, parce que le journaliste n'est pas au-dessus de la loi, il faut bien le souligner. Le journaliste n'est pas au-dessus de la loi. Et si le journaliste passe son temps à diffuser des informations erronées, en ce moment-là, vous recourez aux voies de droit pour rentrer dans vos propres droits. C'est tout à fait normal.
La piste idéale, c'est le respect de l'article 24 de la loi fondamentale.
Respecter l'article 24 de la loi fondamentale et se rappeler à tout moment qu'on ne gère pas sa propre boutique, qu'on gère les affaires de l'État au nom du peuple à qui on doit rendre compte. Donc c'est l'importance de ces comptes qu'on doit rendre au peuple qu'on ne veut pas intégrer.
Merci beaucoup Polydore Mouboyaï. Nous rappelons que vous êtes le président de l'Observatoire des médias congolais. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout merci d'avoir fait les déplacements de ces studios. Nous allons nous retrouver avec vous à très bientôt pour un autre numéro.
Merci.
Voilà, merci également à vous tous ceux qui avez participé à ces débats. Merci à Jean-Claude Siala, à Berry Franklin Siaka et à Titi Poutou qui ont réalisé cette émission supervisée par Nicole Ngaka et coordonnée par J.R. Lungembo. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. À très bientôt.